Maintenant, on va parler brièvement de l'influence de l'activité mentale sur l'activité cérébrale. J'ai publié un article de revue l'année dernière qui fait un résumé d'études de neuroimagerie qui montrent clairement que l'activité mentale, la conscience, l'intention peuvent exercer une influence extrêmement importante au niveau du fonctionnement cérébral. Si on revient en arrière, au niveau des thèses matérialistes, il est clair que si l'esprit n'existe pas ou que l'est simplement la résultante de phénomènes électriques et chimiques, ben, il ne peut pas exercer une influence consciente et intentionnelle sur l'activité cérébrale. Or, il y a de plus en plus d'études empiriques en neuroimagerie qui montrent le contraire. Bon, ça c'est un exemple d'études qu'on a menées il y a quelques années où on induisait à l'aide d'extraits de films un état émotionnel temporaire. Dans ce cas-là, il s'agissait de tristesse. Et donc, il y avait une condition où les gens faisaient tout simplement regarder les films, les extraits de films, et réagissaient normalement. Donc, ils devenaient tristes. Mais dans une autre condition expérimentale, on leur demandait d'arriver à réguler de façon consciente et intentionnelle la réponse émotionnelle à des films comparables. Et pour ça, on proposait une stratégie qui s'appelle l'observateur détaché. Et c'est une stratégie qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve au niveau de certaines formes de méditation bouddhiste, en état de mindfulness, par exemple. En français, on dit pleine conscience. Donc, on voyait dans la condition normale, triste, des activations dans la plupart des régions associées au cerveau émotionnel, qu'on appelle aussi système limbique, mais dans la condition de régulation, qui est appelée ici condition suppression, on a vu une disparition marquée des activations au niveau du système limbique et une apparition d'activité dans les zones préfrontales du cerveau. Les zones préfrontales qui sont les dernières à être apparues chez l'être humain au niveau de l'évolution biologique, donc, et qui sont très fortement reliées à la conscience, l'intention, la volonté. Et donc, les gens qui faisaient partie de ce protocole de recherche-là, c'était pas du tout des méditants expérimentés, c'était des gens qui ont pratiqué tout simplement avant l'étude en question, pendant simplement quelques minutes, pour apprendre à utiliser ces stratégies. Donc, ça montre qu'on peut arriver de façon très rapide à exercer une influence considérable sur les processus électriques et chimiques du cerveau. Ici, j'illustre une autre étude qui a été faite. C'est une étude avec la tomographie par émission de positrons. Et on mesurait le taux de synthèse de la sérotonine, qui est un messager chimique important, qui est impliqué au niveau de la régulation des humeurs, mais aussi au niveau de la spiritualité. Et on a travaillé avec des acteurs professionnels, et ce qu'on leur demandait, c'est tout simplement d'entrer dans un état soit de joie très intense ou de tristesse. Et pour faire ça, ils travaillaient avec des souvenirs autobiographiques très chargés. Donc, c'était des acteurs de l'école de New York, et c'est la façon dont ils travaillent généralement sur scène. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas trop difficile pour eux à réaliser. Et lorsqu'ils ont utilisé des souvenirs donc chargés sur le plan de la joie, on a vu une augmentation d'activité de la sérotonine dans des régions du cerveau qui sont impliquées au niveau des émotions et de la régulation des émotions, donc dans des régions comme le cortex orbitofrontal, par exemple, et le mésencéphale, donc le tronc cérébral. C'est des régions où on voit une diminution marquée d'activité de la sérotonine dans des maladies comme la dépression clinique, par exemple. Dans la condition opposée, pour la tristesse, on a vu exactement l'inverse, c'est-à-dire que, en l'espace de quelques minutes, on a vu une baisse marquée de capacité de synthèse de sérotonine au niveau de régions comparables dans le cerveau. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment faire très, très attention au genre de pensée qu'on entretient, parce que ça a des réponses automatiques au niveau du cerveau. Et le cerveau, ben, il est connecté à tous les systèmes physiologiques, donc ça a des réponses aussi au niveau de l'organisme. Alors, on a fait une autre étude pour démontrer l'impact d'un changement de croyance dans un contexte de thérapie cognitivo-comportementale. C'était avec des phobiques, des gens qui souffraient d'une phobie spécifique aux araignées. Et au niveau de la thérapie, ben, il y avait deux aspects importants. Il y avait une désensibilisation par exposition graduelle, et on leur présentait des images d'araignées et des extraits de films aussi. Mais il y avait une autre composante qui était la réévaluation sur le plan cognitif. En fait, ça consiste à modifier les schémas de pensée ou les croyances qui sont inappropriées. Alors, avant le traitement, les participantes, c'était 12 femmes âgées entre 20 et 30 ans, n'étaient même pas capables de regarder des images d'araignées dans un cahier et même de toucher les images. À la fin de la thérapie, ben, elles étaient toutes capables de tenir une tarentule géante dans leurs mains. Tout ça en l'espace simplement de 4 sessions de psychothérapie sur une durée d'un mois. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a scannées avant et après thérapie. Et avant thérapie, on avait des activations très importantes au niveau de la région du cerveau qui est liée au stockage des mémoires et au rappel des mémoires, l'hippocampe. Et donc, il y avait plusieurs de ces personnes-là qui avaient eu des expériences traumatisantes dans l'enfance avec des araignées. Après thérapie, au bout d'un mois, il n'y avait plus du tout d'activation dans cette région-là. Lorsqu'on leur présentait des films, des extraits de films, pendant que ces personnes-là étaient scanographiées. Donc, c'est des résultats qui sont vraiment très, très impressionnants. Une autre étude que j'ai examinée à ce sujet-là, c'est celle qu'il y a un effet placebo chez des patients parkinsoniens. L'effet placebo, ben, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les croyances, les attentes par rapport à un médicament ou un traitement qui n'est pas véritablement efficace. Et il y a un groupe de neurologues au Canada, à Vancouver, qui a utilisé tomographie par émission de positron pour mesurer la quantité de libération de dopamine et la production de dopamine. La dopamine, c'est impliqué dans toutes sortes de fonctions, la récompense, par exemple, les états euphoriques, mais également, c'est le messager chimique qui contrôle la motricité, donc les mouvements. Et donc, on a vu dans cette étude-là que les gens qui, les patients qui avaient le plus confiance dans le traitement inefficace, le placebo, ce sont eux qui se sont mis à resynthétiser et libérer au niveau du cerveau des quantités de dopamine comparables à ce qu'on observe chez des gens qui sont sains sur le plan neurologique. Et ça s'est manifesté pendant un certain temps. Et donc, c'est vraiment remarquable parce que ces gens-là avaient une destruction des neurones à dopamine dans leur cerveau de plus de 80%. Donc, en principe, on n'aurait jamais dû voir ce genre de phénomène-là. Donc, ça montre vraiment que la croyance, ça peut exercer une influence énorme au niveau du système nerveux. Et ça m'amène à la question de la psychoneuro-immunologie. C'est une discipline relativement récente qui date de quelques décennies. Et elle étudie les interactions entre les variables sur le plan psychologique, le système nerveux et le système endocrinien et immunitaire. Et donc, il y a des études qui ont été effectuées à ce niveau-là qui montrent que il y a deux voies de communication qui sont bidirectionnelles et qui relient système nerveux et système immunitaire. Donc, c'est le système nerveux autonome et aussi système endocrinien. Et il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées dans les 30 dernières années qui montrent que les gens qui utilisent différentes stratégies mentales, ça peut être des techniques de relaxation, ça peut être des techniques de visualisation, eh bien, ces techniques-là peuvent moduler de façon marquée et très rapidement l'activité du système immunitaire et du système endocrinien. Alors, ce que ça dit finalement tout ça, c'est qu'il y a une unité profonde donc entre ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, le cerveau et le corps. Donc, tout ça constitue ce qui a été appelé par Candace Pert aux États-Unis un réseau psychosomatique. Et donc, c'est un système, si on veut, qui est multidirectionnel. Et c'est un système de communication qui permet de relier l'esprit, le cerveau et les systèmes physiologiques, immunitaires, endocriniens. Et donc, dans ce système-là, il y a un échange constant et très important d'informations.